En Palestine sur Radio Galère 88.4. Comme chaque semaine, on va faire un petit tour du côté de la Palestine occupée. Avec, pour commencer, un article qui date de février 2018. C'est un article qui a été écrit par un journaliste belge, René Bachmann, et qui s'intitule « La Cisjordanie, poubelle de l'État hébreu ». À les moments où le Pôle écologiste de la municipalité de Marseille vient de se renforcer, eh bien, il m'a paru judicieux de venir avec cet article parler en particulier de ce qui se passe en Cisjordanie. On y reviendra peut-être en fin d'émission si on a le temps. Selon un rapport de l'ONG B'Tselem, l'État d'Israël a construit en Cisjordanie 15 installations de recyclage et de traitement de ses déchets industriels et médicaux, dont l'activité met en péril la santé des habitants et nuit gravement à leurs ressources naturelles, au mépris, là encore, du droit international. L'État d'Israël, qui occupe depuis 1967 le territoire palestinien de Cisjordanie, ne se contente pas d'y avoir transféré en un demi-siècle plus de 700 000 de ses citoyens, en comptant les colonies de Jérusalem-Est. Plus discrètement, mais dans le même mépris du droit international et de la population locale, il a aussi transformé ce territoire occupé en décharge pour ses déchets domestiques et industriels, surtout lorsqu'ils sont particulièrement dangereux pour l'homme et pour l'environnement. C'est ce que révèle l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, dans un rapport daté de décembre 2017, Made in Israel, Exploiting Palestinian Land for Treatment of Israeli Waste, ce qui en bon français veut dire « fabriqué en Israël, exploitant les terres palestiniennes pour le traitement des déchets israéliens ». Disponible depuis plus d'un mois, au moment où a été écrit l'article, ce rapport a eu assez peu d'écho en Israël comme à l'étranger. C'est d'autant plus surprenant que son contenu est explosif. Selon ce document, 15 installations de traitement des déchets ont été créées dans les zones sacrifiées de Cisjordanie, pour stocker ou recycler une bonne partie des 350 000 tonnes de rejets dangereux produits chaque année en Israël. Près de 60% de ces déchets sont d'origine organique, comme les solvants ou les lubrifiants. Environ 10% contiennent des métaux, souvent issus des accumulateurs ou des piles, plomb, lithium, aluminium, cuivre, zinc. Le reste est composé de terres polluées, d'eau usée industrielle et d'emballages de produits chimiques. Ces rejets dangereux sont issus de tous les secteurs de l'activité économique israélienne, chimie, pharmacie, haute technologie, métallurgie, traitement des métaux, agriculture, industrie militaire, combustible et carburant. D'autres déchets dangereux proviennent des hôpitaux, infirmeries et dispensaires, ainsi que des fermes ou des ateliers de réparation automobile. Globalement, écrit l'auteur du rapport, Adam Aloni, les informations sur les quantités des divers types de déchets traités en Cisjordanie et sur l'impact de cette activité ne sont pas accessibles au public. Les demandes que nous avons adressées en application des dispositions légales sur la liberté d'information sont restées sans réponse. Les questions parlementaires posées au ministère de la Protection, de l'Environnement et à l'administration civile, c'est-à-dire, entre parenthèses, la branche de l'armée chargée des territoires occupés, donc, les questions posées par le député Dov Kenim en mars 2017 sont également restées sans réponse à ce jour. Finalement, après la publication du rapport, confié à Mediapart Adam Aloni, nous avons reçu un appel téléphonique du ministère de la Protection de l'Environnement qui nous indiquait que la loi sur la protection de l'environnement ne s'appliquait pas à la Cisjordanie et qu'il n'avait donc aucune information sur le transfert des produits polluants de ce territoire. La dissimulation des informations constitue une grande partie du problème. Israël a créé des conditions dans lesquelles il peut agir sans transparence ni obligation de rendre des comptes. 5 installations dispersées dans le nord et le centre de la Cisjordanie ont été plus particulièrement étudiées par B'Tselem. Leur activité montre la diversité des matériaux expédiés en territoire palestinien pour y être stockés, traités ou recyclés. La plupart du temps en violation des règles internationales et même des conventions signées par Israël. Elle montre aussi jusqu'où Israël est allé dans l'exploitation de la Cisjordanie à son bénéfice, dans l'indifférence totale des besoins des Palestiniens, des risques auxquels ils sont exposés et des dommages infligés à leur environnement. Principale entreprise de son secteur, Eco-Medical Ltd, installée dans la zone industrielle de Maale et Ephraim, à l'est de Jérusalem, traite chaque année 3000 tonnes de déchets biologiques et médicaux. Il s'agit de sang humain et autres fluides biologiques, infectés ou non, rejetés par des laboratoires, de restes d'animaux, de laboratoires, de déchets provenant de traitements des patients contagieux, placés en chambre d'isolement et du matériel utilisé pour leurs soins par le personnel hospitalier. Selon l'OMS, ainsi que le relève le rapport, les déchets de ce type contiennent des micro-organismes qui peuvent être dangereux pour la population et leur transfert, tout comme leur traitement, comporte des risques sérieux d'effets toxiques et de contamination. Notamment lorsqu'il s'agit de préparations pharmaceutiques contenant des antibiotiques ou des produits destinés au traitement des cancers. Ces risques sont d'autant plus grands, estime B'Tselem, que les lois israéliennes concernant la gestion des déchets médicaux ne répondent pas sérieusement et largement aux dangers présentés par ces déchets. En fait, la législation écologique israélienne ne s'applique pas à la Cisjordanie. Construite à l'est de la vaste colonie d'Ariel, l'usine Compost Ore Factory est spécialisée dans le recyclage des boues produites par le traitement des eaux usées. Selon les chiffres du ministère de l'Environnement, 65% de ces boues, soit 387 000 tonnes en 2015, ont été recyclées pour produire des engrais agricoles. 32% ont été rejetées dans la Méditerranée et 3% ont été enfouies. Près de 60% des boues recyclées, soit 225 000 tonnes, l'ont été par Compost Ore Factory, qui reçoit les boues de 25 centres de traitement des eaux dispersées sur tout le territoire d'Israël, d'Eilat à Haïfa, en passant par Beersheba, Jérusalem, Herzliya ou Carmiel. Il existe quelques autres installations du même type en Israël et sur le plateau du Golan, occupé en 67 et annexé en 81. Mais leur capacité annuelle de traitement n'excède pas quelques dizaines de tonnes. Bien que les boues en provenance des eaux usées ne soient pas considérées comme des déchets dangereux, leur traitement dégage une puanteur insupportable pour le voisinage. Et surtout, le moindre accident dans le fonctionnement de l'usine peut provoquer une pollution catastrophique du sol, de l'eau et de l'atmosphère et disperser des produits pathogènes. Les déchets de solvants et autres produits chimiques qui atteignent 50 000 tonnes par an représentent 15% des déchets jugés dangereux générés par divers secteurs de l'industrie israélienne. Près de 40% de ces déchets sont recyclés dans ces 5 usines. Le reste n'est pas recyclé, mais transformé en énergie dans 2 installations construites en territoire israélien, l'incinérateur de Ramat Ovav, dans le nord du Negev, et la cimenterie de Necher, au sud-est de Haïfa. L'usine de Metar Recycling Technology Ltd à Michor Adumim, entre Jérusalem et la Mer Morte, est l'un des 5 centres de recyclage. Elle est spécialisée dans la transformation des solvants issus de la production des peintures, colles, enduits, encres d'imprimerie, ainsi que d'autres sous-produits des industries pharmaceutiques et chimiques. Ce recyclage inclut une phase de distillation qui rejette des produits polluants dans l'atmosphère et aboutit à la conversion en pesticides, peintures, produits pharmaceutiques, tous considérés comme dangereux pour les humains et l'environnement. Tout aussi dangereuses sont les 2 autres installations étudiées par B'Tselem, Green Oil Energy, dans la zone industrielle de la colonie d'Ariel, au sud de Naplouse, et EMS Refiners of Precious Metal INC, près de la colonie de Shiloh, également au sud de Naplouse. La première traite des huiles industrielles issues de l'industrie automobile, de l'aviation et de la marine, des lubrifiants et des liquides utilisés dans les systèmes hydrauliques. Ces huiles et émulsions sont transformées en combustible pour le chauffage. Leur transport et leur recyclage peuvent provoquer de graves dommages à long terme pour les ressources en eau et présentent des risques élevés pour la faune, la flore et la santé des humains. La seconde installation, EMS Refiners, établie en 1989, est spécialisée dans le recyclage des piles, accumulateurs et autres sous-produits de l'industrie électronique civile et militaire ou du secteur des télécommunications. EMS est la seule entreprise israélienne à disposer d'une autorisation globale pour le traitement de ces déchets électroniques. Elle a traité 55 tonnes de piles usagées en 2015 et plus du double en 2017. Alors, pourquoi l'État d'Israël, qui se définit volontiers comme une start-up nation et dont nombre de politiciens estiment que la terre de Cisjordanie leur a été donnée par la Bible sous le nom de Judée-Samarie, pourquoi cet État a-t-il fait de ce territoire occupé quatre fois plus petit qu'Israël le réceptacle de ses déchets les plus toxiques ? Parce que la législation qui encadre cette activité en Israël ne s'étend pas à la Cisjordanie, dont la population vit sous administration militaire et n'a pas voix au chapitre, même lorsqu'il s'agit de sa santé. En Israël, le transport et le maniement des produits dangereux exigent un permis spécifique. La loi de 2008 sur l'air propre requiert une étude régulière de l'impact des installations polluantes sur leur environnement. Quant à la Convention de Bâle de 1989, ratifiée par Israël en 1994, qui régit les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, elle ne s'applique pas, selon les dirigeants israéliens, à la Cisjordanie, qui n'est pas pour Israël un État séparé, distinct du territoire israélien. En conséquence, écrit Adam Aloni, les usines polluantes installées en Israël sont l'objet d'une législation rigoureuse en matière de contrôle de la pollution, tandis que les installations polluantes installées dans les zones industrielles des colonies ne souffrent d'aucune restriction. En fait, Israël traite la Cisjordanie, et pas seulement la zone C dont il conserve en vertu des accords d'Oslo le contrôle total, comme une zone destinée à servir ses intérêts, comme si elle relevait de sa souveraineté territoriale. À cela s'ajoutent des mesures spécifiques, facilités financières, réductions fiscales, subventions gouvernementales pour inciter les industriels à construire et à exploiter, pratiquement sans contrôle, des usines de traitement des déchets en Cisjordanie. Cela au nom de l'amélioration de la rentabilité des investissements et dans l'impunité totale, en dépit du fait que, dans ce domaine aussi, Israël viole sans scrupule le droit international. Ce droit stipule qu'une puissance occupante ne peut utiliser un territoire occupé et ses ressources pour les besoins ou les bénéfices du développement économique de l'occupant. C'est ce qui nous a amené, ce qui a amené beaucoup d'organisations internationales à parler à la fois de crimes de guerre, de ce crime de guerre que constitue la colonisation, l'occupation permanente depuis plus de 50 ans, la colonisation, l'exploitation des terres, ça relève du crime de guerre, et puis cette double législation qui s'applique à la fois sur un territoire totalement contrôlé par les autorités israéliennes, une double législation à la fois civile et militaire pour les uns, militaire pour les Palestiniens, civile pour les Israéliens, qu'ils soient colons en Cisjordanie ou qu'ils soient en Palestine 48 sur le territoire d'Israël lui-même, ce qui a amené les associations et les Nations Unies à parler du crime d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité. Voilà, on va faire maintenant une toute petite pause musicale, enfin une petite pause musicale quand même assez conséquente, avec une chanteuse Jazia Safour qui revient avec un nouvel album intitulé « Aswat, des voix ». Et c'est un album qui explore l'héritage musical algérien. Elle s'est associée à 120 jeunes du Forez, 120 jeunes de la chorale du Collège du Palais des Fleurs et de l'Association musicale de Fleurs, pour interpréter sa chanson Ida. C'était le 14 mai 2022. Ida est dédiée aux Palestiniens qui s'opposent quotidiennement à la violence de l'occupation israélienne. Elle exprime le vécu des peuples autochtones soumis par le colonialisme et la dépossession de leurs droits sur leur terre ancestrale. إذا اختفت الوديان غابت المرايح والقطعان اللي كان معي Elle était belle, cette chanson. C'est les chœurs des enfants qui soulignent magnifiquement la belle voix de Jazia Satour, que je n'abîme pas son nom. Voilà, on revient un petit peu sur la bande de Gaza. On est en juin 2022, il y a 16 ans, le peuple palestinien a voté. On aime la démocratie chez nous, hein. On aime la démocratie, mais on n'aime pas quand le résultat du vote ne nous convient pas. Et on a puni le peuple palestinien, celui de Gaza en particulier, mais pas uniquement, l'ensemble du peuple palestinien, qui a voté majoritairement pour le Hamas. Ce n'est pas que le Hamas soit notre tasse de thé ici. Ce n'est même pas que les dirigeants palestiniens soient notre tasse de thé tout court. Ce qui nous intéresse, c'est le soutien à un peuple spolié, privé de ses droits, c'est de dénoncer la colonisation, dénoncer l'apartheid. Mais il nous faut quand même remarquer que lorsqu'un peuple vote, la démocratie veut que l'on respecte ses choix, même s'ils ne nous conviennent pas. Et depuis que le peuple palestinien a voté en soutien au Hamas, en particulier dans la bande de Gaza, eh bien il est puni par un blocus imposé dès juin il y a 16 ans. et renforcé l'année d'après. À tel point qu'aujourd'hui, le rationnement est intense, que les autorités israéliennes laissent passer la quantité minimale de nourriture pour éviter qu'il y ait une famine dans la bande de Gaza, où la situation se dégrade jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alors, on va essayer d'écouter une interview faite avec notre amie Nejma Fares, qui était il y a peu de temps avec nous, il y a un mois, un peu plus d'un mois avec nous à Marseille. Et hier soir, entre deux coupures d'électricité, eh bien, elle a essayé de répondre à nos questions. Alors on a bricolé quelque chose parce que l'idéal aurait été qu'on fasse ça en direct. Sauf qu'elle n'était pas certaine d'avoir assez de batterie pour nous répondre pendant l'émission et pour être joignable pendant l'émission et pour nous répondre. Donc on a fait ça par les réseaux sociaux et on démarre par la première question. Bonjour Nejma, tu nous parles depuis Gaza. Est-ce que tu peux rapidement te présenter puisque nos auditeurs ne te connaissent pas, ta formation, ton itinéraire?
Bonjour à tous, je m'appelle Nejma, je suis ingénieure en eau et environnement, une spécialité qui m'a ouvert l'œil sur beaucoup d'issues et aspects qui ont un impact sur l'environnement, spécialement dans la bande de Gaza où je vis. Depuis quelques années, j'ai eu l'opportunité de coordonner des projets liés à l'eau et à l'assainissement, financés par des organisations et des associations françaises, en collaboration avec des partenaires locaux. Ces projets ont ciblé directement des habitants dans des quartiers qui manquaient cruellement de l'eau potable. Comme on a pu mettre en place des projets qui ciblaient des élèves dans des écoles, en particulier des écoles situées dans les zones frontalières.
Alors, qu'est-ce que Nejma entend par zone frontalière? Eh bien, ce sont les zones qui sont situées au nord de la bande de Gaza, Beit Hanoun, et aussi des zones qui sont situées près du mur d'enfermement, enfin de la clôture de l'apartheid. Ce sont des zones, surtout dans le nord, où l'eau est encore un peu plus potable que ce qu'elle peut être dans le sud, où elle est totalement salinisée. Voilà. Nous sommes à 16 ans du blocus illégal de Gaza, donc 15 ans de son renforcement par les autorités coloniales israéliennes. Nejma, quelle est aujourd'hui la situation dans la bande de Gaza?
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les efforts que vous déployez pour soutenir la population, en particulier à Gaza, par le biais des manifestations et des activités que vous avez menées afin de délivrer un message significatif et de faire connaître la situation et le vécu actuel et quotidien des Gazaouis. Merci parce que vous avez soutenu toujours la cause palestinienne et vous avez toujours manifesté pour lever le blocus sur notre peuple qui est assiégé pendant des années, sachant que les effets du siège semblent clairs étant donné que de nombreuses personnes ou la plupart des personnes dans la bande de Gaza ne peuvent plus supporter les conditions résultant de ce siège-là. Qui leur est imposé et cela se reflète négativement sur leur comportement, en particulier vis-à-vis de leur famille. Les cas de violence sous toutes ses formes se multiplient. Le taux de chômage augmente et le taux de pauvreté augmente. Les parents sont incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. D'une part, et loin de ce qui est rapporté par les médias, nous, à côté de votre rôle de militant, on espère que vous aurez aussi un rôle d'acteur. Nous espérons aussi que la vraie image parviendra à la société française et qu'elle soit consciente de la réalité des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, dans quelles conditions ils vivent. qu'ils soient conscients aussi que cette population a droit à une vie sûre et saine. D'une autre part, j'aimerais bien parler des projets qui peuvent améliorer, participer ou à participer à améliorer les conditions de vie des populations face à la privation de leurs droits à l'eau, à l'environnement. L'idée, c'est de contribuer à la réalisation des projets dans divers domaines, comme par exemple un projet qui assure un accès sécuritaire à l'eau potable, soit dans les quartiers les plus vulnérables, soit pour les élèves dans les écoles. J'aimerais aussi parler aussi des projets, des petits projets là qui peuvent soulager la souffrance des jeunes Gazaouis, voilà, en soutenant leurs idées et voilà aussi pourquoi pas soutenir des petits projets pour eux, voilà.
Oui, merci Nechma. Je voulais là ajouter quelque chose qui nous a profondément, je ne sais pas si vous dire troublé ou choqué. Une troupe de Dabké composée de 7 ou 8 jeunes Palestiniens de la bande de Gaza, le plus âgé avait 17 ans, le plus jeune avait 7, 8, 8 ans, devait venir en France. Tout était prêt, la tournée était organisée, ils étaient attendus à Martigues. Et il y avait plusieurs soirées qui étaient prévues à Port-de-Bouc, Istres, et tout le monde se réjouissait de voir ses enfants, qui allaient passer peut-être 3 semaines ou un mois loin de la terrible situation de la bande de Gaza. Eh bien, malheureusement, les autorités françaises ont refusé le visa. Ce sont des consignes données depuis Paris, de crainte que certains de ces jeunes restent en France. Alors, notre pays a très bien accueilli 85 000 déplacés, réfugiés ukrainiens, et c'est bien. Mais notre pays a peur d'avoir un ou deux enfants qui resteraient en France, ce qui est totalement ridicule parce que ce sont des enfants mineurs et ils ne resteraient pas en France. Ils sont accompagnés, ils sont entourés par des adultes qui les ramèneront, et ces enfants n'ont pas manifesté la moindre intention de rester vivre en France. D'autres le font peut-être, certes, mais pas parmi ce groupe-là. Eh bien, la France a eu peur de quelques enfants palestiniens. On préfère les voir peut-être abattus sur la plage de Gaza quand ils jouent au football que de venir danser sur les plages et autour de la Méditerranée, près de Martigues, Istres, Port-de-Bouc et autres villes du bassin méditerranéen. Voilà, c'est quelque chose qui a fait très mal, en particulier à nos amis du collectif de solidarité Martigues-Ouest Étang de Berre et tous ceux qui s'étaient engagés dans l'organisation de leur venue. Alors, on va passer peut-être à la troisième question, enfin, à la question suivante. Nejma a passé plusieurs. Ah oui, alors la question suivante, c'était est-ce que Nejma, tu peux nous dire quels sont les sujets qui te paraissent très importants aujourd'hui, qui portent sur le fait qu'il y a eu une visite de plus d'un mois et Nejma est venue en France. Elle a rencontré évidemment sur Marseille, Martigues, des responsables municipaux. Elle a rencontré des paysans. Elle a pu échanger, sans doute pour la première fois, avec Yara de Jérusalem, avec Fayez de Tulkarem. Et on avait reconstitué une petite Palestine à Marseille pour quelques jours avec des gens qui n'avaient pas la possibilité de se rencontrer depuis des décennies et qui ont pu se parler et échanger lors de leur séjour à Marseille. Donc la question est de poser à Nejma était de savoir quel est le bilan de ces rencontres.
Le 21 mai, on était invité à participer à un événement qui a été organisé par le collectif Palestine en résistance à Marseille. Dans lequel nous avons
l'opportunité d'intervenir à des tables rondes sur le thème de la justice climatique, un sujet qui est très important et un sujet d'actualité. Durant ces tables rondes, nous avons discuté du changement climatique, de son impact sur l'eau, sur le secteur agricole. Plusieurs sujets ont été également abordés avec mes collègues qui sont venus aussi de Gaza et de la Cisjordanie. Et ils ont, ça leur permet aussi d'exposer la situation actuelle qu'ils vivent. Chacun représentait sa communauté. Ils représentaient leur secteur du travail et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les participants ont été, ou les présents ont été initiés aux conditions dans lesquelles vit le citoyen palestinien sous l'occupation ou sous le siège ou le blocus en avant de Gaza. Nous avons essayé de parler un petit peu de nos souffrances des souffrances des agriculteurs et de la population qui manque de l'eau bonne à boire et qui manque aussi de la qualité de l'eau et qui souffre aussi subit une pénurie de services humanitaires, ce qui est un droit fondamental. Les réunions ont également été organisées et tenues avec des réunions aussi ont été organisées et tenues avec des maires et des représentants de certaines municipalités pour introduire les problèmes du citoyen palestinien. Nous avons parlé de certains projets qui ont été réalisés avec certaines associations françaises. Et certains projets aussi ont été mis en avant qui réduiraient des projets qui ont pour but de réduire les pressions et contribuent à améliorer les conditions de vie de toutes des sociétés palestiniennes. Les rencontres ont été riches et fructueuses, l'accueil a été intime et merveilleux. Nous avons eu des promesses de coopération et de soutien moral permanent et continu. Nous avons aussi eu des promesses de recherche des fonds pour soutenir certains projets dans le domaine de l'eau et dans le secteur agricole. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de se déplacer dans d'autres villes en France, en Ariège, à Bourges. J'ai intervenu aussi sur la question de l'eau, les problématiques de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement en général. J'ai parlé aussi du changement climatique. Impact sur la vie quotidienne des Gazaouis. On a échangé avec les participants. Nous avons transmis un message dans lequel nous avons parlé de nos souffrances. Comme nous avons parlé aussi j'ai parlé aussi de nos intérêts, de nos aspirations et de nos aspirations, de notre droit à une vie décente dans laquelle nous jouissons de tous nos droits. Voilà, c'était surtout ça.
Voilà, donc on va arriver à la dernière question. C'est le dernier fichier. Et c'est difficile à écouter, j'en conviens, mais il me semblait que c'était important d'avoir la voix de Gaza. y compris dans des situations difficiles. C'est les situations que les Palestiniens vivent avec ces coupures d'électricité qui peuvent durer des heures et des heures. Et donc, vite, quand on a de l'électricité, eh bien, on fait ce qu'il y a à faire. Et là, en l'occurrence, j'avais envoyé les questions bien avant, de manière à ce que dès qu'elle avait un petit moment où il y avait l'électricité, elle puisse envoyer petit à petit les réponses. Certaines se sont perdues en route, certaines sont bien arrivées. Donc, on a... merci Sidi pour ta patience. On a essayé de monter une interview qui tienne à peu près la route. Voilà, merci à vous pour votre patience. Et on termine la dernière question à Najma. Tes espoirs et ta conclusion, Najma.
Les guerres répétées et la poursuite du siège de la bande de Gaza ont des répercussions sur tous les aspects politiques, économiques, de développement, environnementaux et sociaux et empêchent tout progrès et réalisation dans tous ces domaines. J'espère qu'un jour, le siège qui entrave tout projet de développement sera levé et de grands projets seront mis en œuvre qui résoudront de nombreuses crises dans la bande de Gaza, y compris les problèmes d'électricité, de l'eau et des problèmes liés à l'assainissement. Nous avons besoin de points de passage ouverts pour obtenir des financements et acheminer du matériel et des outils. Plus de 1500 articles sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza sous prétexte de double usage et pour des raisons de sécurité israélienne, ce qui empêche la réalisation de tous les grands projets. Arrêtez les destructions, les tueries et les guerres qui détruisent systématiquement nos infrastructures. Reconnaître les droits des Palestiniens à une vie digne et leur donner leur droit à l'eau potable.
Voilà.
Derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés, la mer on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra.
Voilà, merci pour l'eau fraîche, non polluée, qui me permet de revenir et d'avoir une voix à peu près normale. On va laisser Gaza pour un petit moment, mais on y reviendra au cours des prochaines émissions pendant le mois de juillet. parce que c'est vraiment là où il faut exercer notre solidarité, partout pour la Palestine, partout où il y a des réfugiés qui souffrent, certes, mais la bande de Gaza vit une situation particulièrement douloureuse et dans l'indifférence totale. Malgré les violations du droit international, malgré l'apartheid, malgré les crimes de guerre, malgré le crime contre l'humanité. Et je pense qu'au niveau de Marseille, on espère quand même arriver avec quelques associations, arriver peut-être à monter avec Nejma un joli projet de financement d'une installation d'eau potable pour une école dans la bande de Gaza. Maintenant, on va passer dans le Negev. Vous savez, au sud, le Negev, il est au sud de l'État d'Israël. En arabe, on l'appelle le Nakab. Et dans le désert du Nakab, Israël expulse les Bédouins pour planter des forêts. C'est un article de Lise Mauvais pour le média Reporter. Et ça date de février 2022. En Israël, le désert du Negev est en ébullition. Des tentes de rassemblement ont été déployées à proximité de plusieurs villages où les sittings se multiplient, drainant des manifestants et une forte présence policière. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, dont nombre de mineurs et plusieurs ont été gravement blessés. Des rassemblements de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes palestiniennes et à Jérusalem. Une campagne se déploie sur les réseaux sociaux sous le hashtag Save Al-Nakab, sauver le Nakab, du nom donné au Negev, en arabe. À l'origine du conflit, des arbres. Les communautés locales se mobilisent contre un plan d'afforestation mené par l'État dans le nord du Negev, une zone semi-aride qui reçoit 250 mm de pluie par an en moyenne. Le projet est mis en œuvre par le Keren Kaimet Le Israël, KKL, la branche israélienne du Fonds national juif, FNJ. On le connaît en France sous ce nom-là, le FNJ, un fonds privé qui gère la plupart des forêts en Israël, c'est-à-dire qu'après 1948, rapidement, l'État israélien a confié la gestion de la terre, et en particulier des terres prises aux propriétaires palestiniens qui avaient été poussés hors de Palestine. Ça a été confié, toutes ces terres ont été confiées pour la gestion au Fonds national juif. Mais les terres qui lui ont été confiées sont revendiquées, cultivées et habitées depuis des décennies par les Bédouins, donc ça c'est pour la région du Nakab, une minorité arabe parmi les plus marginalisées du pays. Depuis des années, ils dénoncent la spoliation de leurs terres, menée selon eux au nom de la lutte contre la désertification, un discours environnemental qu'ils qualifient de « greenwashing », c'est-à-dire « éco-blanchiment ». La mobilisation en cours s'inscrit dans le cadre de décennies de lutte contre la forestation. L'un de ses emblèmes est le village d'Al-Araqib que les habitants disent avoir fondé en 1905 lors de la période de domination ottomane, mais dont les titres de propriété ne sont pas reconnus par l'État israélien. En 2005, une première forêt plantée aux abords du village était inaugurée en présence de dizaines d'ambassadeurs étrangers. En 2010, les bulldozers sont arrivés cette fois dans le village et les habitants ont été sommés de quitter les lieux pour laisser place aux arbres. Ils ont déraciné nos arbres, des oliviers, des caroubiers, pour nous forcer à partir. Ils ont détruit nos étables et nos maisons. Ils ont confisqué nos machines, raconte le cher Saïa Al-Touri, un chef local. Les maisons ont été démolies, remplacées par des abris de fortune, eux-mêmes démantelés près de 200 fois. Des démolitions que l'État israélien facture aux habitants. Il ne subsiste du village qu'une poignée de camionnettes qui tiennent lieu de chambre, garées dans un cimetière qui atteste de la présence ancienne de ses habitants. Aujourd'hui, c'est au tour d'autres hameaux, comme Saoua, Abou Wadi ou Al-Atrash, d'accueillir les bulldozers sans que les habitants aient été consultés. Les arbres qu'ils veulent planter ne nous apporteront rien. Ce sont des épineux, pas même bons à nourrir le bétail, explique Issam El-Ouzayel, un enseignant originaire du village de Mia. Il pourrait planter ses arbres sur des terres vierges. Pourquoi le faire dans nos champs ? S'indigne-t-il en désignant la longue cicatrice brune laissée par le KKL venu défricher le sol il y a 2 mois. Pour les habitants, le projet s'inscrit dans la continuité de 70 ans de politique visant à les sédentariser. Nous n'avons rien contre les arbres, mais si les planter sert à chasser les gens, alors nous ne sommes pas d'accord, explique Mohamed Annabari, un enseignant. La fondation d'Israël en 1948 a été marquée par de violents combats, dont des massacres qui ont poussé des centaines de milliers de Palestiniens sur les routes de l'exil. Dans le Negev, la population arabe est passée d'environ 100 000 en 1948 à 11 000 au début des années 1950. Après la guerre israélo-arabe de 1948, l'État hébreu nouvellement créé s'est emparé de terres abandonnées, entre guillemets, y compris par des tribus bédouines. Celles-ci sont aujourd'hui engagées dans des batailles juridiques pour les récupérer. Les Bédouins ont été regroupés de force dans la zone d'Al-Siyaj, un triangle couvrant moins de 10% de leur ancien territoire et encouragés à se sédentariser. Cet épisode historique a laissé de vives cicatrices. Semi-nomades, les Bédouins du Negev se déplaçaient traditionnellement entre les terres sur lesquelles ils avaient des droits et qu'ils cultivaient. Il est faux de les présenter comme des gens qui bougent chaque semaine et ne possèdent pas la terre, explique Ouda Abou Obeid du Forum de coexistence du Negev pour l'égalité civique, une organisation qui promeut la coexistence avec la communauté bédouine. Je précise, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que ces personnes sont citoyennes de l'État d'Israël. Ce ne sont pas des personnes qui vivent en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou dans la bande de Gaza. Devenus citoyens israéliens, les 240 000 Bédouins du Negev, 25% de la population totale de cette zone, sont la communauté la plus pauvre du pays. Une partie s'est installée dans une poignée de villes dortoirs construites par le gouvernement. Ils sont travailleurs agricoles dans les kibbutz et ouvriers dans les villes proches. Mais beaucoup continuent de vivre ou de garder un logement dans leur village d'origine, non reconnu par l'État. Ces hameaux de Tol ne disposent d'aucun accès aux services de base, c'est-à-dire routes goudronnées, électricité, eau, école, soins, et sont perpétuellement menacés de démolition. Il existe des centaines de villages juifs à qui l'État a donné des centaines d'hectares de terre, ajoute Anna Barry. Nous voulons aussi que nos villages agricoles soient reconnus. En un siècle, les colonialistes, puis les Israéliens, ont planté près de 100 000 hectares de forêt. La plus grande d'entre elles, Yatir, a été plantée par le KKL et figure l'avenir des villages non reconnus. En arrivant de Jérusalem, on l'aborde par un barrage militaire. Côté israélien, les conifères masquent les hauts barbelés courant le long de la ligne de démarcation entre la Cisjordanie occupée et le Negev. 3 000 hectares y ont été plantés grâce à des dons venus du monde entier, y compris de Belgique, de Suisse et de France. Les infrastructures portent le nom de généreux donateurs ou évoquent de plus verts horizons comme l'air de pique-nique scandinave, plongé dans les pins. Présentée comme une forêt modèle, Yatir prouve que nous pouvons combattre la désertification et soigner la terre selon le site du KKL. Pourtant, les environnementalistes remettent en question depuis des années le bien fondé écologique de ce modèle. Le nord du Negev constitue en effet une zone de transition entre le sud désertique et les paysages méditerranéens de Cisjordanie. Son paysage ouvert, naturellement peu boisé, émerge de son paysage ouvert, naturellement peu boisé, émerge une biodiversité unique et plusieurs espèces menacées. Selon la Société pour la protection de la nature, la principale ONG de conservation d'Israël, ce type d'écosystème est parmi les plus menacés du pays. L'État d'Israël a néanmoins prévu d'emboiser des milliers d'hectares aux grandes dames de la Société de protection de la nature. Car le boisement implique la construction de routes, de retenues d'eau, de fossés pour planter les pousses, le tout au détriment de la végétation endémique et de la faune, souvent remplacée par des espèces forestières. Quel besoin y a-t-il aujourd'hui pour suivre une afforestation qui transforme des zones naturelles en forêts plantées, s'interrogeait la Société protectrice de la protection de la nature, dans un rapport de 2019. Vu d'une hauteur proche, le village de Sdeboker est un cercle d'émeraude qui se démarque des étendues ocre du centre du Negev. Il y flotte un parfum d'oasis. Les allées baignent dans l'ombre d'une végétation dense. Les maisonnettes sont bordées de pelouses et de fleurs. C'est dans ce kibbutz, une exploitation agricole collective, que le premier dirigeant israélien, David Ben-Gourion, s'est installé en 1953. Il était fasciné par le Negev, dont l'immense étendue, 12 000 km², représentait selon lui la clé de la pérennité de l'État juif. Dépeint comme une terre vierge à développer, malgré la présence de milliers de bédouins palestiniens, le Negev a capturé l'imaginaire des Israéliens qui ont acquis la réputation d'avoir fait fleurir le désert, en domptant ce territoire aride, source d'étonnants succès agricoles. En effet, 80% de la production nationale de tomates cerises vient du Néguev. Planter des arbres s'inscrit aussi dans ce récit national fondateur de la lutte contre le désert. Mais ses détracteurs dénoncent le coût de ce succès pour les populations d'origine. Les Palestiniens n'oublient pas que pour combattre le désert, le pays a abondamment détourné l'eau du fleuve Jourdain, privant ses voisins arabes de cette ressource. Ni qu'en 2005, l'administration israélienne a reconnu avoir répandu du glyphosate par avion dans les champs des Bédouins afin de contrer l'occupation illégale des terres, au mépris de l'environnement comme des risques encourus par les habitants et par le bétail. Les activistes accusent aussi le Fonds national juif, créé en 1901 dans le but d'acquérir des terres pour de futures colonies et d'accaparer les terres revendiquées par les Palestiniens. L'ONG israélienne Zokrot estime que 2/3 des forêts gérées par le Fonds national juif sont plantées sur les ruines de villages palestiniens, contribuant ainsi à effacer les traces de leur présence. Alors même que dans les territoires palestiniens occupés, des centaines d'arbres sont régulièrement arrachés pour faire place à de nouvelles colonies, la création de forêts ou de réserves naturelles sert d'excuse pour limiter le développement des villages arabes et pour préserver la terre en vue de l'établissement du village juif, a rappelé l'ONG Adala, qui défend les droits des minorités arabes d'Israël, dans un communiqué contre le plan d'afforestation. Contacté par reporter, le KKL n'a pas souhaité s'étendre, affirmant seulement agir selon les décisions du gouvernement, dont il dit n'être qu'un prestataire. Voilà, c'était l'article de reporter, il date de quelques mois, février 2022. Et à travers les deux articles, celui lu en début d'émission et ce dernier, vous voyez tout à fait comment fonctionne l'État israélien. C'est-à-dire on ne respecte rien, ni le droit international, ni les conventions, ni les traités signés. On utilise l'éco-blanchiment pour se vanter de d'avoir fait fleurir le désert, se vanter de planter des milliers d'arbres tout en arrachant ou en coupant. Ce qui se passe quotidiennement en Cisjordanie est une véritable catastrophe à la fois écologique et alimentaire. C'est-à-dire ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'oliviers qui chaque année sont détruits, soit arrachés, soit brûlés, soit coupés par soit l'armée pour construire des routes, pour faciliter les implantations, soit par des colons hystériques et fascistes. Voilà où nous en sommes. Et il est temps que nous nous réveillions. Même si les vacances arrivent, même si nous avons chaud et que nous pensons plus à la plage, mais gardons quelque part dans notre tête et dans notre cœur l'idée que la population palestinienne a besoin de notre solidarité. Et peut-être, eh bien, contactez-nous pour monter un projet avec Najma, un projet pour une école, pour mettre un purificateur d'eau dans une école de la bande de Gaza. C'est une somme que nous pouvons réunir avec l'aide de certaines institutions qui se feront un plaisir de se joindre à la population pour un beau projet pour les enfants de la bande de Gaza. Voilà, il est 18h56. On va peut-être revenir avec la première chanson, cette jolie chanson, avec le cœur des enfants. Et après, on se dit au revoir maintenant. Allez, on vous souhaite une belle semaine avec Sidi de l'autre côté de la vitre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre heure en Palestine. Et maintenant, encore un petit peu de musique avant d'avoir le générique de l'émission.
عنك الوديان غابت المراعي والقطعان اللي كان ضار العيان إذا حجبت الجدران إذا اختفت الوديان غابت المراعي والقطعان اللي كان ضهر الأيام إذا حجبت الجدران تن إلى
تصير غريب في بلاد قريب تحل إلى عرضك وانت قريب وتصير في بلاد قريب في أرضك وبلادك في مردود بلاد غريب